Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. La plupart d'entre vous, vous me connaissez, Anthony Granger, responsable de Portes Ouvertes au service des chrétiens persécutés. Sans plus attendre, j'aimerais vous partager cette parole qui s'affiche ici, que vous avez dans 1 Thessaloniciens, à partir donc du verset 6. Et nous lisons ensemble, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Curieux comme parole, la joie du Saint-Esprit. Quand on parle de persécution, c'est le thème que j'aborde sur ce week-end, on ne pense pas spontanément à la joie. Et c'est vrai, se dire... Je vis mon christianisme, je suis chrétien, protestant, évangélique, je vais à l'église, je ne fais de mal à personne, je cultive l'amour de mon prochain, tels les enseignements que Jésus nous a donnés. Mais pourtant, pour cet amour, je peux être persécuté, discriminé, en raison de ma foi. Et pourtant, c'est exactement ce que Paul met en avant dès le début de sa lettre aux Thessaloniciens. Une église persécutée, mais qui pourtant... fut rempli de joie et résisté avec la joie du Saint-Esprit. Alors, ce texte hors contexte peut venir bousculer notre manière de penser la foi, notre manière aussi de pouvoir appréhender notre propre vie au travers des épreuves, mais aussi au travers de cette persécution qui nous paraît tellement injuste. L'apôtre Paul nous rappelle que ce christianisme biblique auquel nous avons adhéré, auquel nous adhérons, n'est pas une promesse de confort, mais une relation vivante à Dieu, avec Dieu, qui est capable de tenir même quand tout s'effondre autour de nous, y compris au travers de la persécution. Alors, cette question sous-jacente nous invite non pas à nous dire comment éviter la persécution, puisque apparemment la persécution, on peut la traverser avec la joie, mais nous invite plutôt à comment rester fidèle, joyeux et enraciné quand elle arrive. Moi, la question que je me pose au travers de ce verset hors contexte, que je vais mettre dans son contexte, c'est comment une église de Thessalonique, aussi jeune, et on va le voir, peut-elle persévérer dans une foi authentique et dans la joie? Alors, ensemble, nous allons voir ce verset, ce chapitre, du moins du verset 1 à 10, et nous allons lire ensemble le passage qui s'affiche ici. Et ne m'en voulez pas si j'utilise la joie quand je le lis. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. J'ai fait volontairement esprit de mettre de la joie dans ces paroles. Parce que là, on a un apôtre Paul joyeux. Autant à Corinthiens, on pourrait le voir un peu plus sérieux, effectivement. Mais là, on le voit joyeux. Et puis, je ne sais pas si vous lisez dans ce texte, comme moi j'ai pu le lire, mais un certain soulagement aussi. Une félicitation de cette Église. Ce n'est pas une félicitation de gloire, hein, ce n'est pas « je vous rends gloire », non, on rend gloire à Jésus de ce qu'il a fait en vous. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre, dans son contexte, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, si vous voulez étudier ce texte thessalonique, il est important et bon d'aller dans Actes 17, où nous voyons, au final, comment ça s'est passé à Thessalonique. Paul, dans son voyage missionnaire, est passé par Philippe, dans lequel il a vécu une persécution, et puis il s'est rendu avec Sylvain, à Thessalonique. Au début, vous savez que Paul vient avec tout son savoir scripturaire sur l'Ancien Testament, la Torah, et rentre dans les synagogues pour prêcher l'Évangile et montrer que dans les livres de l'Ancien Testament, Jésus était annoncé et que ce Jésus, que ce Messie qui est annoncé, est arrivé. Alors, on a une indication de temps au verset 2 de Actes 17. Il est marqué « pendant trois Shabbats, les commentateurs, les théologiens pensent que Paul n'est pas resté très très longtemps. Et pour cause, au verset 5, « Mais les Juifs jaloux, donc des Juifs qui n'ont pas reçu la parole du Seigneur, prirent avec eux quelques méchants hommes pour commencer cette persécution contre Paul et Sylvain. » Et puis au verset 10, carrément, « Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré. » Et là, on a tout ce chemin. Paul qui vient, qui évangélise, qui crée une petite communauté grâce à Dieu, et les ennuis commencent. La parole n'est pas reçue et la persécution tombe sur eux, à tel point qu'ils sont obligés de fuir. Et ils vont fuir à Béré, où à Béré la parole va être plutôt bien reçue, mais quand les Juifs de Thessalonique vont apprendre qu'à Béré ils ont reçu Paul avec plaisir, les Juifs de Thessalonique vont aller à Béré pour reprovoquer encore une persécution. Waouh ! C'est difficile. Et là, ça accentue cet effet de « vous avez été des modèles, vous avez résisté à la persécution avec joie ». Et là, on se dit, il y a un contraste saisissant d'un Paul qui fuit face à littéralement des loups ou des lions rugissants. Mais aussi, on a ce contexte d'une toute jeune église qui n'a pas forcément été formée au complet. Paul va rester 18 mois à Corinthe et on sait la catastrophe qu'il y a pu avoir à Corinthe. Et là, Paul ne va pas rester très très longtemps à Thessalonique et on a des chrétiens qui sont un exemple, un modèle de foi extraordinaire. Ils ont abandonné les idoles, dit l'apôtre Paul. Ça peut nous rappeler les textes que vous suivez en ce moment dans Exode, ce parallèle avec frappant où Israël sort d'Égypte, du peuple païen, du peuple de la souffrance, et qui très vite, pendant cette libération-là, va être dans les difficultés. On se souvient du sang qui est recouvert sur les linteaux pour protéger le peuple, on se souvient de la mer Noire, on se souvient de toutes les difficultés des 40 ans dans le désert. Oui, ils ont quitté le lieu des ténèbres, mais sont retrouvés dans une difficulté. Libérés, mais déjà menacés. Sauvés, mais déjà éprouvés. Dieu n'attend jamais que son peuple soit fort pour l'éprouver. Parfois, il agit avant et il soutient pendant et il conduit après. Alors, ça nous interpelle. Quand on parle des chrétiens persécutés, 388 millions de chrétiens sont exposés à la persécution. Ça veut dire qu'il y a ceux qui souffrent de persécution, et il y a ceux qui sont sur une véritable épée de Damoclès. À n'importe quel moment, la persécution peut surgir et la souffrance peut arriver. Cela représente un chrétien sur sept, et dans laquelle, chers frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle. Un chrétien sur sept est persécuté dans le monde, mais il y a six chrétiens sur sept qui peuvent prier, agir et soutenir le frère ou la sœur qui est persécuté. Et vous avez, sur cette animation qui s'affiche, l'évolution de la persécution depuis 30 ans. Notre outil, l'Index mondial de persécution des chrétiens, qui réunit les 50 pays les plus persécutés, qui est un outil à méthodologie scientifique, 15 chercheurs qui travaillent en permanence pour interpréter les chiffres, 4000 personnes qui participent à l'édification de ce document, qui est aujourd'hui reconnu. Et vous voyez l'évolution en 2025, comment la situation évolue en moins de 30 ans. Vous avez cette carte dans laquelle nous voulons rappeler ici que certes, on pourrait voir le côté négatif, mais je vais vous inviter à voir la gloire de Dieu. Parce que là où il y a de plus en plus de chrétiens persécutés, c'est aussi qu'il y a de plus en plus d'évangélisation, de conversion. Et le peuple de Dieu s'agrandit. Mais l'ennemi n'aime pas ça. C'est ainsi que nous le voyons ici. Mais gloire soit rendue à Dieu, la persécution, la souffrance à l'épreuve ne détruit pas la foi. Du moins, elle ne la détruit pas pour ceux qui sont appelés et pour ceux qui résistent et qui tiennent ferme dans cette foi. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. J'aimerais vous rappeler que dans ce contexte d'une jeune église, on peut se poser la question de se dire « Je suis l'apôtre Paul, je suis obligé de fuir, je laisse ce peuple, cette jeune église, au milieu des loups, et moi j'imagine très bien Paul s'inquiéter de ce qui va devenir de cette église de Thessalonique. » Alors nous comprenons au chapitre 3 de ce même épître, au verset 2, au verset 5, au verset 7, nous voyons plusieurs fois Paul faire référence qu'il a envoyé Timothée pour se précipiter à savoir et à connaître qu'est-ce qui est devenu l'église de Thessalonique. Paul s'est inquiété de savoir si elle avait résisté à la foi. Plusieurs signes clairs, la foi ne disparaît pas, la transformation est visible et l'église devient un témoignage pour d'autres. Paul reconnaît une œuvre qui le dépasse. Ils ont résisté à la joie, à la persécution avec la joie du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon enseignement, ce n'est pas leur force, c'est le Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit. Alors nous avons ici, nous rappelons sans cesse l'œuvre de notre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Et vous avez là, sur ce verset, ces trois caractéristiques, vous avez un petit peu, excusez-moi le terme, les vertus de ces chrétiens de Thessalonique. Qu'est-ce qui les a maintenus dans la résistance, dans le fait de tenir ferme? Alors c'est beau, parce qu'on se dit, voilà ce que le Seigneur a fait à cette jeune église. Alors, il y avait quand même un problème à Thessalonique, parce que Paul n'a pas écrit deux épîtres parce que tout allait bien. Paul a écrit deux épîtres parce qu'il fallait reprendre l'église Thessalonique. Et la problématique, c'était que c'était une jeune église remplie de foi, de zèle, mais elle se trompait sur l'eschatologie, le retour du Christ. Elle pensait que Jésus allait revenir là, incessamment sous peu, peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines. Et il y a eu des problèmes dans la communauté. Des gens qui vivaient au travers des autres, qui étaient à la charge des autres, qui avaient arrêté de travailler. Il y avait, oui, une espèce de zèle tellement fort qu'on arrête tout, on abandonne tout, et d'autres étaient à charge de ces personnes-là. D'autres problématiques d'ordre ce qu'on appelle eschatologique, où Paul a dû parfaire leur formation. Et il n'est pas question de dire que les Thessaloniciens étaient des mauvais chrétiens. Juste, Paul n'a pas eu le temps de parfaire leur formation. Ce qui nous invite à nous conforter dans les Écritures pour que nous aussi, nous soyons continuellement formés de la parole de Dieu. Donc Paul écrit cette épître. Écrit la deuxième épître, reprend le peuple, l'encourage dans les bonnes voies. Mais avant, il le félicite. Et voici ce qu'il dit d'eux, et c'est ce qu'il nous montre d'une certaine manière, ce qui les a tenus. L'œuvre de votre foi. Paul parle de cette œuvre de la foi. Bien sûr, il n'est pas question de dire ici que c'est les œuvres qui amènent à la foi, bien évidemment, mais comme le dit Jacques, quand nous sommes investis de la foi en Jésus-Christ, naturellement se produit des œuvres issues de cette foi. Et je voudrais être très clair ici, bibliquement, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais c'est la foi qui sauve, qui n'est jamais stérile et qui produit des œuvres. Et c'est ainsi que Jacques dira, montre-moi ta foi par tes œuvres, montre-moi que tu aimes vraiment Jésus-Christ et anime-toi d'œuvres et d'actions qui le prouvent. Paul dit ici que la foi agit. Et chez les Thessaloniciens, ça se voit. Ils abandonnent les idoles, chose très prégnante dans leur contexte. Ils refusent les compromis, ils acceptent les conséquences avec la joie du Saint-Esprit. La foi biblique n'est pas une idée. C'est un engagement total envers Dieu, un total renoncement. Il faut que la graine tombe et meure pour qu'ensuite elle puisse porter du fruit. Je voudrais vous présenter Jephté, qui est un chrétien que j'ai rencontré en Afrique centrale. Son contexte de persécution, c'est le culte animiste. Il a rencontré Jésus à 12 ans. Il lit la Bible. Il s'est converti. Il a secrètement abandonné les idoles des esprits des anciens. Et quand on l'a rencontré, il avait 19 ans. Je le revois encore tout penaud sur sa chaise. Et il nous dit, je savais que quand je me suis converti, je serais obligé d'abandonner Jésus-Christ et de le renier. Et je trouvais ça bizarre parce qu'effectivement, il était là parce qu'il était persécuté devant nous. Indéniablement, il n'avait pas renié Jésus. Mais pourquoi nous dit-il qu'à 12 ans, il aurait été obligé d'abandonner Jésus-Christ ? Et là, il nous explique que dans sa culture, pour devenir, pour passer du stade d'enfant à homme, enfant adulte et de garçon à homme, il faut passer un rituel initiatique avec le sorcier, en cultivant les esprits des anciens, en allant dans la forêt et en passant 3 jours à cultiver, à parler aux esprits des anciens. Vous devinez le caractère ésotérique de cette situation. Et Jephté n'avait pas envie. Mais Jephté, résigné, se dit « Je ne peux pas me permettre de ne pas passer ce rite. » Donc il s'équipe, il dit au revoir à ses parents, il va passer 4 jours là-bas et va à la rencontre du sorcier. Et là, il nous dit d'un seul coup « Je ressens en mon cœur une force vivifiante, une paix extraordinaire, la joie du Saint-Esprit » qui m'a donné l'assurance de dire non au sorcier, mais oui à Jésus. Il dit que c'était le plus beau jour de ma vie parce que pour la première fois, je découvrais un courage qui n'était pas de moi et que je n'ai jamais connu de ma vie, une peur que j'avais depuis des années qui s'est effacée au moment même de l'épreuve. Alors je vois le sorcier et je lui dis « Je suis désolé, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour moi à la croix et je ne ferai pas le rite. » Il va voir ses parents, il essaye tout à le temps d'évangéliser, de leur prêcher l'évangile, mais les parents n'entendent pas, il sera violenté, battu et chassé de chez lui. Et j'ai envie de vous dire, si c'est encore que ça, ça irait. Mais il nous dit, et c'est là que l'équipière intervient, parce qu'elle sait le contexte, et elle dit, Jephté, explique aux Français, c'est quoi les conséquences en plus ? Quand vous n'êtes pas un homme, vous n'avez pas passé le rituel, vous êtes ce qu'on appelle de la viande. Et quand vous êtes de la viande, vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit d'acheter, vous n'avez pas le droit de vendre quoi que ce soit, vous n'aurez jamais le droit de vous marier, de toute façon vous n'aurez pas assez d'argent pour payer la dot, vous n'avez pas le droit d'avoir une pièce d'identité parce que c'est la communauté qui fait les papiers légaux pour que vous puissiez aller vous enregistrer, vous n'avez pas le droit de marcher dans certaines rues, vous n'avez plus le droit d'avoir des amis, en gros c'est la mort, vous êtes un peu comme limite Caïn qui sera errant, vagabond errant. Vous n'êtes plus rien. Et là, nous mesurons comment cet acte de foi, cette paix, cette tranquillité l'a amené à une persécution extrême, à être totalement rejeté. Mais il assume complètement son choix parce qu'il a embrassé la vie éternelle. Il a embrassé une espérance extraordinaire. Il a perdu des amis, une famille, mais il a gagné des frères et sœurs qui s'occupent de lui. Un centre baptiste, d'ailleurs, qui l'a recueilli et qui s'occupe de lui et qui le forme pour son futur ministère. Il vous a gagné, chers frères et sœurs. Je vous annonce que vous avez la joie d'avoir un frère en Christ, là-bas, dans ce pays-là, qui, comme vous, a fait ce choix de Jésus-Christ. Cette foi en Jésus qui s'est transmise au travers d'une œuvre, d'un renoncement à soi-même, mais d'une œuvre aussi de dire « Je renonce à ma vie, mais j'accepte les conséquences ». J'aimerais vous montrer ce témoignage d'un frère, de comment lui aussi, frère pasteur, vit la persécution et comment il met sa foi en exergue au travers de tout ce qu'il vit. Voilà là encore une belle illustration moderne de cette œuvre de la foi, mais aussi du labeur dans l'amour, qui nous est également cité, comme le mot « labeur », qui dans son grec signifie un travail pénible, éreintant, qu'il est difficile parfois de rester dans l'amour, c'est un travail de motivation perpétuelle, mais aussi de l'amour de son prochain, l'amour de son ennemi à lequel Christ nous invite également. C'est aussi accepter de perdre ses droits, sa place, sa sécurité, mais de garder Christ au centre. D'ailleurs, vous êtes détourné des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et vous avez accepté là-dedans, de vivre des temps difficiles dans votre communauté, mais vous l'avez accepté dans ce travail du labeur et de l'amour. Aimer, enraciné en Christ, persévérer malgré les différences et la souffrance. Mais dans la persécution, aimer, c'est soutenir, pardonner, rester unis malgré la pression, malgré l'envie de partir, d'éclater la communauté. Mais non, l'Église persécutée sans amour s'effondre. Une Église aimante tient même sous la pression. C'est une invitation, dans les moments difficiles, à rester centré sur l'amour. Et puis, une ferme espérance, comment ne pas aborder ce thème-là, qui a été l'espérance de Jephté, qui est l'espérance de notre frère, qui dit qu'il ne verra probablement jamais sa retraite. Mais qu'importe, son espérance, ses yeux sont fixés sur le pas encore, comme nous disait notre sœur. Cette espérance qui nous est promise, cet héritage qui ne peut se corrompre ou se flétrir. Nous pensons à la terre promise des Israéliens qui sont sortis d'Égypte et qui ont regardé cette terre promise. Mon Dieu, que notre terre à nous est bien plus grande et bien plus magnifique que celle des Israéliens. Et c'est cette invitation que Paul nous fait au travers de ce texte de continuer le bon combat de la foi, de l'œuvre de la foi, du labeur dans l'amour et de cette ferme espérance. Frère André, notre fondateur, disait « La parole de Dieu transforme les gens transformés transforment les situations autour d'eux. Nous sommes une mission qui croyons au changement. Nous ne sommes pas contre les persécuteurs, nous les aimons, mais nous sommes pour que Jésus aille leur parler, aille les toucher, et que des situations et que la gloire de Dieu se manifestent. En équipant, en fortifiant l'Église persécutée pour qu'elle continue son grand commandement d'être lumière dans les ténèbres. Et je rappelle que les Thessaloniciens ont été un modèle de croyants malgré la persécution et que c'est pour ça qu'ils sont reconnus publiquement dans toute une grande région parce que la persécution a révélé leur foi et leur amour en Christ. Et nous avons cette même perspective à portes ouvertes. Je voudrais que cette perspective, nous puissions la communiquer au travers d'un effort collectif en Afrique subsaharienne. Nous voulons récolter 1 million de signatures, nous sommes à la moitié, et cette campagne va se terminer en octobre. Nous avons besoin de signatures pour pouvoir aller interpeller les politiques, et particulièrement l'Alliance africaine, les Nations unies, le Congrès américain, l'Union européenne, pour montrer ce qui se passe. Mais vous savez, quand on va montrer ce qui se passe, on va aussi témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ dans les cœurs. Ce n'est pas qu'une œuvre de défense des chrétiens, c'est le but premier, mais c'est aussi une œuvre d'évangélisation. Vous pouvez scanner le QR code, vous l'avez ici sur la table, ou signer en papier, n'hésitez pas. Également, vous avez toutes sortes de moyens de vous tenir informés. Les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook pour les plus vieux, puisque j'ai appris récemment que Facebook, c'était pour les vieux. Donc j'ai appris que j'étais vieux, 37 ans, voilà. C'est les jeunes qui m'ont dit ça, hein, voilà. Le magazine, le fil rouge avec le magazine, 5,50€, un an d'abonnement, 5,50€, c'est quasiment donné, dans lequel vous avez le calendrier de prière, les actualités, parce que nous voulons une seule chose de votre part, c'est que vous puissiez prier pour nos frères et sœurs, vous puissiez prier pour les Aways de la vidéo, que vous puissiez prier pour les GFT qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos prières. Alors, si ce magazine quasi donné peut vous aider à vous connecter à l'Église persécutée, à faire corps, je vous invite à vous abonner. Et je vais conclure par la prière et vous remercier, vous rappelant ce que nous dit l'apôtre Paul avec ces chrétiens de Thessalonique qui ont tout abandonné, c'est que ce qui anime nos communautés, ce qui anime nos liens fraternels, ce soit notre foi qui se met en exergue et qui soit une foi active. Que cet amour soit un véritable labeur pénible, parfois difficile entre frères et sœurs, c'est vrai, mais dans laquelle Jésus tient ferme. Et rappelez-vous que Jésus a payé le prix pour cela. Mais que surtout, ce sacrifice à la croix, sur cette occasion de porter nos regards vers cette grande récompense imméritée qui est la gloire de Dieu, dans laquelle nous serons tous. Je vous invite à pencher vos têtes, à prier tout simplement. Et nous allons juste prier. Merci Seigneur pour ta grâce, ta gloire. Merci pour cet exemple des Thessaloniciens. Merci aussi pour cet exemple prophétique, messianique, au travers de ton peuple qui s'est libéré d'Égypte, dans lequel tu as, oui, mis dans l'épreuve, dans lequel tu l'as conduit vers cette terre promise. Merci Seigneur parce que tu as fait tout le travail et qu'encore tu fais le travail dans nos cœurs. Nous voulons te prier, Seigneur, que dans nos difficultés, dans nos efforts, dans nos épreuves personnelles ou communautaires, tu nous invites à mettre cette foi en Jésus en action, en œuvre. Tu nous invites, Seigneur mon Dieu, à rester dans ce labeur de l'amour, à réaliser tes principes, Seigneur, qui sont bons. Tu as payé la croix pour que nous puissions les embrasser et les manifester. Et Seigneur, merci pour cette espérance, celle qui a animé les Thessaloniciens, celle qui a animé Jephthé, celle qui anime Away, c'est celle qui anime 388 millions de chrétiens exposés à une forte persécution. Merci Seigneur mon Dieu pour toute ta grâce et ta bienveillance. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.